Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de l'Europe versus les GAFAM. On ne devrait plus appeler les GAFAM, mais on les appelle quand même les GAFAM. Est-ce que les utilisateurs sont pris en tenaille? Ça sera un peu le sujet général, mais on aura plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi... On est en quoi? On est en mars. Nous sommes le jeudi 7 mars 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? J'ai oublié de relayer un truc sur les réseaux sociaux. Je fais ça tout de suite. En plus, j'ai fait une erreur dans le titre sur Twitter. Je parlais bien sûr de l'Union européenne et pas des États-Unis, mais mon clavier a fourché. Donc je vais faire la correc. Yep. Voilà. Yep. C'est fait, c'est reposté. Comment vous allez bien ce matin? Ah oui, j'ai la ref, il est 8h, Monseigneur, bien sûr, La Folie des Grandeurs, Louis de Funès, Yves Montand, film de mon enfance, lointaine. Tiens, d'ailleurs, c'est mon anniversaire demain. Mais plus important que ça, demain, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc je ne veux personne qui dise que demain, c'est la journée de la femme. Ça, vous êtes en 1990 si vous dites encore ça. Non, c'est demain, mon anniv, pas aujourd'hui. Je suis effectivement né, c'est le hasard des choses, la journée internationale des droits de la femme. Comment vous allez bien, vous, ce matin? Est-ce que c'est la forme? Oui, bah en fait, mes potes oublient rarement mon anniversaire parce que dès qu'ils entendent Journée internationale des droits de la femme, ah, c'est l'anniversaire de Jérôme. Yep. Tu prends de l'avance. Non, mais t'as raison. Moi, c'est mon grand truc. Je rate les anniversaires soit en avance, soit en retard. Il n'y a pas de journée de la femme. Je ne sais pas ce que c'est que ce 14 février, mais je ne crois pas qu'il y ait de journée de la femme. Et tant mieux, parce que ça ne veut absolument rien dire. Ou alors, appelons ça journée de la moitié de l'humanité. Salut Bastille. On a vu ta blague en off-web. En fait, elle n'est pas drôle du tout. Désolé. Ah oui, tu avais fait une faute de frappe. Ça reste pas drôle, désolé. Merci beaucoup, Bipascal91, pour ton 30e mois d'abonnement. Merci, Caméléon41, également, pour ton 41e mois d'abonnement. Attendez, j'ai un petit problème avec ma fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette interface de merde ? Merci aussi Renardo Glacial pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Maël QSD pour ton 4e mois d'abonnement. D'accord, on off web, mais il faut que tu mettes du contexte, tu sais, parce que je peux pas, on peut pas comprendre après. Ben non, ça sera tout le contraire, Bankster Corp. Le live, au contraire, il faut que la moitié de l'humanité réfléchisse à l'autre moitié de l'humanité et à ses droits. C'est ça, demain, en fait. C'est ça, en fait, le 8 mars. Que une moitié de l'humanité réfléchisse au traitement inégal de l'autre moitié de l'humanité. Pour moi, c'est ça, le 8 mars. Mais on en reparlera demain. Voilà, on en reparlera demain. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets à voir ensemble. On va regarder ça, justement. Hop. On va commencer en parlant de Microsoft qui tue le support d'Android sur Windows 11. Le mariage a été de courte durée. Nous parlerons également de Apple qui enterre encore... mince, j'ai oublié de dire, le premier article est un article de Numérama. Le deuxième article est un article de 01net.com. Apple enterre encore Fortnite sur iOS en Europe. Nous parlerons ensuite avec l'ADN de OpenAI versus Elon Musk. Sam Altman contre-attaque et dévoile les mails embarrassants d'Elon Musk. C'est un peu la réponse de, si vous avez suivi l'actualité, Elon Musk qui s'en prend à OpenAI. Nous parlerons également pour Apple avec Numérama, nous parlerons d'iOS 17.4 qui est disponible. Voici les nombreuses nouveautés sur iPhone. Et bien sûr, une des énormes nouveautés, ça concerne surtout l'Europe. Donc, la fin des articles parlera un petit peu de ça avec l'application du DMA depuis hier. Pourquoi Google Maps, donc un article de Big Geek, pourquoi Google Maps a disparu des résultats Google et comment les rétablir. Et nous terminerons justement avec un débat, je pense ensemble, avec Guico le soir de Belgique. Le DMA rentre en vigueur, ce qui va changer ce 6 mars sur Internet. Donc qu'est-ce qui a changé depuis hier? Et est-ce que ça sera un peu le point du débat? Est-ce que je vois beaucoup de mécontentement dans les utilisateurs? On parlera de ça. On parlera de ça. Voilà un petit peu pour les articles du jour. On va commencer tout de suite. On va parler effectivement de Microsoft qui tue le support Android dans Windows 11. Compliqué de mariage. Mais... voilà. Premier article. Je le lisais un petit peu. Voir. Okay. Effectivement, qu'est-ce qui s'est donc passé? La promesse était belle sur papier, pouvoir lancer des applications ou des jeux Android sur son PC. Dans les mois qui ont suivi la sortie de Windows 11, le 5 octobre 2021, une mise à jour importante du système d'exploitation a eu lieu pour prendre en charge le système d'exploitation mobile de Google. Souvenez-vous, hein, c'était 2021, c'était il n'y a pas si longtemps. On était là, mais trop bien! On va pouvoir lancer des applis et des jeux Android sur Windows. On va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage parce que c'est toujours intéressant. Merde, ils sont où mes sondages? Ils sont là. Yep. Nouveau sondage. Mon clavier, il est là. Donc, la question. Avez-vous lancer une app Android sur Windows? Vous répondez avec franchise, oui ou non. J'ai oublié le tiret, hop, et le point d'interrogation. Je commence le sondage, comme ça on va voir si, si vous avez vraiment lancé des applis Android sur votre Windows. Pour l'instant, on a 29 personnes qui l'ont fait, 30 personnes, ah non, pardon, qui ne l'ont jamais fait. Ah ouais, oui, une grosse majorité n'a jamais lancé d'app Android sur Windows. On est à 42 personnes. Il n'y a que 5 personnes, 6 personnes qui ont lancé une appli Android de leur Windows. Oui, émulateur, si vous voulez, ça peut compter. Je ne sais même pas comment on fait. Donc, vous êtes 8 à avoir lancé une appli Android sur votre Windows et 60 n'ont jamais fait. Si vous êtes des fanboys Apple et que vous ne touchez pas au PC ni Android, ne répondez pas. Voilà. Vous n'êtes pas concerné par ce sondage. Ne venez pas fausser les chiffres. Donc, ça remonte. 9 personnes ont lancé une appli Android sur leur Windows. On est bientôt à la fin du sondage. Ah, on a eu des faux votes, là, des fanboys Apple. Vous croyez toujours concerné, hein. Pour une fois qu'on ne parle pas de vous. Ça, c'est bien les fanboys Apple. Faut toujours qu'ils se mettent en centrale. 14 personnes ont lancé une appli Android sur Windows. Donc, le non est majoritaire. Vous êtes une large majorité et on s'en doutait un petit peu à ne jamais avoir lancé une appli ou un jeu Android sur votre Windows. Donc, ai-je besoin de beaucoup aller plus loin dans l'article? On va le faire quand même. Mais 2 ans plus tard, Microsoft fait marche arrière. Cette incorporation va disparaître. C'est ce que confirme une mise à jour de la page dédiée au sous-système Android sous Windows. Dans les onglets d'assistance de Microsoft, aucune explication particulière n'est donnée par Microsoft. Peut-être le manque d'utilisation a-t-il joué? Je pense que beaucoup quand même. Les conséquences quand même, c'est que l'Amazon App Store sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant du Windows subsystem Android ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025, donc dans un an. Jusqu'à cette date, l'assistance technique restera disponible pour les clients. Mais attention, c'est pas le jour où vous y mettre, parce que dès aujourd'hui, on ne peut plus lancer, on ne pourra plus installer une nouvelle appli Android sous Windows. Donc, c'est pour ceux qui l'avaient déjà fait, qui auront encore une assistance pendant un an. Donc, n'empêche, ça montre bien, parce que on pourrait aussi dire, est-ce qu'il y en a beaucoup qui lancent des applis iOS sur leur Mac? Parce que ça aussi, c'est un peu tombé dans les oubliettes. C'est typiquement le genre de truc, ça excite les technophiles. Trop bien, on va pouvoir lancer des applis d'iPhone sur son Mac. Mais à part les développeurs qui ont besoin de le faire pour tester des trucs, en vrai, moi, j'ai jamais lancé une... Oh, si, peut-être une ou deux. Mais vraiment parce que cette appli n'existait que sur iOS. Non, peut-être, ouais, peut-être... Mais bon, en fait, c'est hyper rare. J'ai jamais lancé un jeu iOS sur mon Mac, quoi. Donc, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, pouvoir lancer des applis mobiles sur son ordinateur, ça paraît une bonne idée pour les technophiles, mais en vrai, personne ne le fait. Copilot iOS sur Mac, c'est pas fou. Bah, en plus, Copilot, tu as accès direct sur ton Mac. Donc, enfin, t'as pas une appli dédiée, mais tu parles navigateur, quoi. Il y a plein d'apps qui n'ont pas d'équivalent, c'est ridicule. Oui, mais la vérité, c'est qu'on a beau dire ça, très peu de gens, en fait, vont utiliser cette fonctionnalité. En fait, très, très peu de gens. Et c'est ça l'effet. L'effet par rapport aux envies ou les rêves de technophiles. Perso uniquement pour des sommes OP qui demandent de jouer avec une version mobile du jeu, d'accord. C'est là où les rêves aussi de technophiles, d'une unification totale entre les smartphones, les tablettes, le nombre de personnes qui rêvent d'avoir macOS sur leur iPad, et je le sais, hein, je le sais, je vous... C'est peut-être pas... C'est ce que les technophiles veulent, mais c'est pas forcément ce que les gens utilisent, en fait. Et oui, Sani, t'as un peu résumé les choses. En général, quand t'as un Mac, t'as un iPhone, ou en tout cas un smartphone, donc l'appli, tu l'as sur toi. Donc... Tant qu'il y a un copier-coller possible entre ton Mac et ton appli, parce que ça, c'est vrai qu'on a besoin parfois. Moi, il y a des choses que je fais sur une appli, j'ai besoin de récupérer les informations sur mon Mac. Mais justement, comme maintenant, tu as les copier-coller, enfin, tu peux faire correspondre, quoi. Ça, Ce que je veux juste dire, c'est que si on a des objets informatiques différents, c'est quand même pour une raison. C'est que il y a des choses qu'on préfère faire sur smartphone, il y a des choses qu'on préfère faire sur un ordinateur, il y a des choses qu'on préfère faire sur un iPad. Plus tard, il y a des choses qu'on préférera faire sur son Vision Pro V3 ou sur son Quest 25. Les objets informatiques, s'ils sont différents les uns des autres... C'est... Alors, je sais, après, on peut avoir des couteaux suisses. Des objets informatiques qui font tout. Mais ça, en fait, ça ne plaît qu'à un tout petit, un nombre très restreint de gens, en fait. C'est ça, les réalités du marché. Et c'est là où, parfois, quand on est technophile, il faut qu'on fasse le tri entre des rêves de technophiles qu'on a et, en fait, les réalités d'usage d'un marché, quoi. Windows se tire une balle dans le pied en faisant ça. Les plaintes des utilisateurs qui n'utilisent pas. Mais oui, c'est, David, là aussi, t'as raison. Les gens vont gueuler contre ça alors qu'ils ne l'utilisent pas. Juste parce qu'ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une raison sous-jacente à cette décision. C'est que, notamment, Windows Copilot va se confronter en termes de concurrence directement à Gemini et Google. Je vais vous faire même un pronostic, comme j'aime les faire sur les 5 prochaines années. Les OS vont devenir moins importants que les agents conversationnels boostés à l'IA générative qui seront implémentés dedans. Je vais même aller plus loin dans mon pronostic. Je ne tomberai pas de ma chaise si dans 5 ans, Windows s'appelle Copilot et même plus Windows. Ou alors un Windows Copilot. Je pense que le bras de fer et la concurrence dans les 5 ans à venir va se faire plus par l'agent conversationnel qui va devenir la porte d'entrée des OS que par les OS eux-mêmes. Alors, c'est peut-être une vision de technophile. Mais je pense justement, et c'est ça qu'on sous-estime, c'est que l'IA générative et les agents conversationnels vont être très grand public, justement, vont permettre au grand public non technophile d'utiliser de manière beaucoup plus puissante leur informatique. Est-ce que Apple aura quelque chose à proposer ? On verra. Mais vous avez le droit d'être pas d'accord. C'est très bien. L'IA, alors, attention, ne confondez pas IA et IA générative et agent conversationnel. Je suis d'accord que pour l'instant, l'IA générative, le grand public s'en tape. Parce que l'IA générative, elle est encore trop dans une phase où il faut s'y connaître un peu pour l'utiliser. Mais le but de l'IA générative, c'est aider avec les agents conversationnels, c'est que tu t'adresses à ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur, comme tu t'adresserais à Jarvis. Voilà. Le but ultime de l'IA générative, c'est Jarvis. Et on trouvera ça beaucoup plus simple de parler avec Jarvis ou de lui écrire des choses. Hein. Parce que le vieil argument que les gens n'aiment pas parler en public à leur smartphone, oui, tu taperas quand tu seras au milieu des gens, quand tu voudras de la discrétion. Mais tu t'adresseras en langage humain à ton informatique pour accomplir des tâches complexes, au lieu d'ouvrir 26 apps différentes pour faire des manips. Non, ça c'est un argument, ça me fait bondir. Oui, mais les gens ne voudront pas parler à voix haute. Non, mais quand je dis parler, tu écriras aussi à ton smartphone si tu veux pas faire de bruit. Tu lui montreras des choses aussi avec le multimodal. Exactement, on se moque beaucoup du Rabbit Air One ou de l'iPin de Human. Et je suis d'accord qu'ils ne remplaceront pas, mais ils montrent la voie. Ils ne remplaceront pas la smartphone, mais ils montrent la voie sur, à mon avis, ce que vont devenir les smartphones et tous les objets informatiques. Et moi, d'ailleurs, j'en parlerai bientôt dans une vidéo, je pense que l'arrivée des agents conversationnels boostés à l'IA générative va être une révolution, enfin, un changement d'interface aussi important que l'invention de la souris ou du touch. C'est-à-dire que ça va être une nouvelle manière d'interagir avec l'informatique. Et qui sera encore plus grand public que le touch et la souris. Juste réfléchissez à un truc. Vous avez des parents qui vous demandent comment faire certaines manips sur leur iPhone, sur leur iPad, sur leur ordinateur. Et vous devez leur expliquer action par action, ouvre le navigateur, fais ci, fais ça. Imaginez maintenant une informatique à qui vos parents, au lieu de vous appeler pour vous demander comment ils le font, ils pourront le demander directement à leur iPhone, leur iPad, leur Android. Est-ce que tu peux me faire ça ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir, je pense, à l'informatique de demain. C'est une informatique qui va disparaître. Il y aura encore moins besoin de savoir utiliser l'informatique pour utiliser l'informatique. En fait, pour avoir écrit la vidéo hier, imaginez, pour ceux qui ont iOS, vous connaissez Raccourci. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas vraiment utiliser Raccourci. C'est encore un petit peu compliqué. Bah, imaginez un raccourci, enfin un système raccourci multi-action que vous pourrez activer en parlant normalement à votre smartphone. Déjà que certains n'open space. Non, mais vous êtes, en fait, désolé de vous le dire, mais vous êtes obsédé avec ce truc que les gens ne parlent pas à leur téléphone. J'ai pas dit forcément parler vocalement, hein. Mais on écrira des phrases, on s'adressera à notre smartphone plutôt que d'ouvrir 26 applications pour obtenir un résultat informatique. C'est ça, à mon avis, ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. On verra. Mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais on verra bien. Bon, je suis quand même en sortie de l'article. On va passer au suivant. On va parler d'Apple. Et on va pas mal parler d'Apple aujourd'hui. Hein, Apple qui fait des trucs quand même hein, là, ces derniers jours. C'est pas joli, joli. On voit un peu le côté pas joli, joli d'Apple. Mais c'est pas non plus des histoires manichéennes, parce qu'on sait que Epic Games, ils sont pas jolis, jolis non plus. Mais en tout cas, le bras de fer entre Apple et Epic Games se poursuit comme un feuilleton au rebondissement digne d'une telenovela. Pour les plus jeunes d'entre vous, les telenovelas, c'est des feuilletons brésiliens à rallonge qui durent depuis 27 ans. Mi-février, l'éditeur de Fortnite annonçait qu'Apple avait attribué un compte développeur à ses filiales suédoises. Donc, suivez bien. Hein. Epic Games, à travers sa filiale suédoise, allait pouvoir installer un App Store alternatif en vertu du DMA. Puisque vous le savez, depuis hier, avec les gros changements d'iOS 17.4, c'est officiel maintenant, on peut avoir des App Store alternatifs sur iOS. C'est une obligation des lois européennes, du DMA européen, et donc Apple a dû s'y soumettre. Donc, Epic Games, Pour rappel, Epic Games ne peut pas installer son store sur iOS. Epic Games a dit, bah, on va profiter qu'on a une filiale suédoise pour le faire. Eh ben non. Epic annonce aujourd'hui qu'Apple a de nouveau retiré le compte développeur, rendant impossible la conception de l'Epic Game Store pour iOS. En mettant fin au compte développeur d'Epic, Apple élimine l'un des plus grands concurrents potentiels de l'App Store d'Apple. Ça, c'est ce que dit Epic. Apple sape notre capacité à être un concurrent viable et montre aux autres développeurs ce qui arrive lorsque vous tentez de concurrencer Apple ou si vous critiquez leurs pratiques déloyales. Et en fait, cette critique d'Apple, c'est le cœur du problème. Le 23 février, Phil Schiller, qui est le grand patron de l'App Store chez Apple, a envoyé un mail directement à Tim Sweeney, qui est le CEO d'Epic Games, en lui demandant de confirmer par écrit qu'il s'engageait à suivre à la lettre les conditions d'Apple. Le courriel évoque les messages et les critiques contre l'App Store proférées par Sweeney ces derniers mois, notamment pendant le procès entre les deux entreprises. Vous savez qu'il y a des immenses procès entre Apple et Epic. Malgré l'engagement écrit, donc Tim Sweeney a répondu au mail de Phil Schiller en disant « Oui, oui, Epic Games, on se soumet aux conditions d'Apple ». Malgré cet engagement écrit, les avocats d'Apple ont prévenu le 2 mars que le compte développeur d'Epic était suspendu. Ils citent notamment un tweet du patron du studio, Epic, dans lequel il déplore le monopole de l'App Store, le monopole sur le paiement des biens numériques, la taxe Apple et les différents blocages et frictions de la firme que la firme Apple impose aux développeurs. Ce lavage de linge sale en public fait bien mauvais genre le jour de la mise en œuvre des dispositions du règlement européen sur les marchés numériques. Seul Epic a pour le moment donné sa version de l'histoire et Apple pourra peut-être réagir, ce que Apple a fait d'ailleurs. Mais l'image projetée par la firme à la pomme en ce moment avec des communiqués au ton passif-agressif ne plaide pas en sa faveur. On va le voir parce que c'est un peu le fil rouge de ce mug ce matin. Le côté passif-agressif d'Apple envers le DMA. En fait, alors, pour voir les deux côtés de l'histoire. En gros, on pourrait dire que le patron d'Epic, il signe des conditions d'utilisation de la plateforme Apple. Et dans ces conditions d'utilisation, il y a un peu écrit « Tu ne critiqueras point ». En gros, alors, tu ne critiqueras pas. Tu ne diffameras pas la plateforme qui t'héberge. Mettons ça dans un autre contexte. Imaginez que moi, j'ouvre un open store physique, voilà, une boutique éphémère. J'ouvre un marché éphémère, voilà. Jérôme lance un marché éphémère et vous êtes des commerçants et vous vends des emplacements dans mon marché éphémère. Donc vous pouvez venir installer vos stands moyennant effectivement des conditions et un paiement. Et dans ces conditions, je vous écris, vous avez le droit de mettre votre stand, mais vous n'avez pas le droit de gueuler à l'entrée du marché que Jérôme est un gros pourri qui ne fait que prendre votre argent et il vous en prend beaucoup trop et que c'est complètement une indignité que ce marché éphémère. Voilà, en gros, j'écris dans mes conditions d'utilisation de vos stands sur mon marché éphémère que vous n'avez pas le droit de me diffamer à l'entrée de mon marché éphémère. C'est délicat parce que tu as la liberté d'expression. Mais là, on est dans des règlements commerciaux aussi. Donc, je suis pas juriste. Mais à partir du moment où tu signes un papier où tu t'engages à ne pas pourrir la réputation, Bah, si tu t'y tiens pas, on peut dire que Apple est manifestement légalement, ils ont le droit de dire bah c'est comme ça. Finito, t'as plus ta place sur le marché. Mais, et c'est là où il faut contrebalancer les choses, Apple a, on sent que Apple, là, ils le prennent mal, hein, toutes ces histoires. Qu'on vienne foutre le nez dans leur business. On a vu hein, leur réaction à l'amende d'1,8 milliard de dollars concernant Apple Music. Leur réponse, elle est salée. Il y a le seum. Ils ont le seum quand même, Apple. Et ils se conforment au règlement européen, mais en traînant des pieds. Ils sont pas contents, ils le font savoir. On réabordera le sujet tout à l'heure, mais même leur implémentation des règlements européens, c'est un peu sale. Le choix du navigateur qu'on peut faire maintenant dans iOS, c'est pas très propre, c'est pas user-friendly, on sent qu'ils sont pas contents. C'est là où il y a quand même un côté passif-agressif chez Apple. En fait, ouais, on les empêche d'organiser le marché à leur façon et sans faire l'anticapitaliste bête et méchant, c'est vrai qu'on en... Comment dire ça ? Je cherche le mot en plus. Apple est un peu trop avide. Comment on dit ça ? Quelqu'un qui veut faire trop d'argent ? Ouais, c'est avide. Et vous voyez, c'est un libéral qui vous le dit. Je ne suis pas, vraiment pas quelqu'un anti-entreprise et je pense qu'une entreprise a le droit de défendre ses intérêts, de compétitive et essayer de gagner un maximum d'argent. Cupide, merci, c'est ça le mot que je cherchais. Mais je pense que Apple est trop cupide. Vous voyez, c'est, et je le dis en mettant en contexte, je suis quelqu'un plutôt libéral au niveau des entreprises. Pour moi, la fonction d'une entreprise, c'est d'essayer de gagner un maximum d'argent, d'augmenter ses performances, d'embaucher un maximum de monde. Voilà, c'est, je suis pour la libre concurrence, ce genre de choses. Mais moi, c'est mon avis, quand même, Apple est trop cupide. Et que là, ça commence à se voir. Et ils n'aiment pas ça. Mais attention, Epic Games, ce n'est pas des enfants de cœur non plus. Hein. Et en termes de cupidité, y aurait beaucoup de choses à redire sur Epic Games aussi. Hein. Donc, attention, je ne suis pas non plus en train de faire le méchant, c'est Apple, Epic Games, c'est le gentil. Hein. Mais là, on parle d'Apple parce qu'il y a plusieurs sujets qui les concernent. Voilà. Ben, je pense que quand même, Lolo, on pourrait aussi caricaturer et dire toute entreprise est cupide. Je ne tomberai pas dans cette caricature-là. Je pense qu'il faut des limites à tout. Je ne pense pas qu'une entreprise... Enfin, c'est très compliqué de demander à une entreprise d'être morale, on est d'accord. Mais d'abord, une entreprise doit respecter les lois. Ça, c'est important. Et je pense que si une entreprise devient trop cupide... Il faut encadrer ça. Parce que c'est ce qu'on voit avec Apple. Ils ont déséquilibré quand même des marchés. Et justement, le problème, c'est qu'à être trop cupide, tu déséquilibres la concurrence. Tu déséquilibres les équilibres naturels d'un marché. Donc, il faut réglementer. Mais je ne suis pas d'accord que toute entreprise est un monstre de cupidité. Je ne suis pas un anticapitaliste à 100%. Je suis un anti-excès du capitalisme. Je suis un libéral, mais pas un ultra-libéral. Je pense quand même à pour moi, la liberté de commerce, la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale. Je ne veux surtout pas qu'on arrive dans des économies planifiées. Mais... Liberté ne veut pas dire que c'est le Far West et on fait ce qu'on veut, quoi. Je regarde un peu ce que vous dites, hein, pas de problème libre de concurrence. Je pense quoi de Qualcomm dans le marché. Voilà, vous m'amenez sur plein de sujets là. Et attention, faut pas que je glisse sur, faut pas que je glisse sur vous. La réglementation entrave le libre marché. Non, non, je suis pas de ceux qui pensent qu'un libre marché c'est un marché sans règles. Au contraire, un marché doit avoir des règles claires. Et c'est ce qui se passe en Europe. Le marché européen est en train d'avoir des règles claires sur son fonctionnement et aux entreprises à suivre le règlement. Encadrer, entraver, oui, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, docteur Rictus. Erreur historique en cours. Les communistes n'étaient pas contre l'économie de marché. On va partir... Bon, si tu veux, mais l'économie planifiée de l'URSS, on ne peut pas dire que c'était un marché ouvert et libre. Est-ce qu'on peut quand même être d'accord là-dessus? Peut-être qu'ils n'étaient pas contre l'économie de marché, mais en tout cas, sur la grande partie de l'URSS, on avait une économie planifiée avec l'État qui décidait de l'ensemble de la production et de la consommation. Voilà. Donc, ce n'était pas non plus une économie de marché. Attention à ne pas confondre l'économie planifiée de l'URSS et ce qui se passe en Chine aujourd'hui, qui est aussi un pays communiste. Là, on peut dire, effectivement, la Chine n'est pas contre l'économie de marché. Ben, je l'ai dit, je ne suis pas si libéral que ça. Je suis libéral, mais je ne suis pas ultra-libéral. Bref, on est en train de partir. On va faire un cours d'économie ou quoi là? Ça veut dire quoi être libéral? Pour résumer, moi je suis juste pour la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre. N'importe quel individu, s'il a une bonne idée, doit trouver dans la société les moyens de commercialiser son produit, de faire fructifier son entreprise ou son commerce et qu'il ait la liberté de le faire. Voilà, c'est ça pour moi être libéral. Donc je suis pour un marché privé en fait et pas que un marché public. Je suis pas contre des économies, contre des entreprises publiques. Je pense que certaines, très bien, il y a certaines industries qu'on doit rendre publiques, mais je crois à l'existence du secteur privé et à la nécessité du secteur privé. Voilà, c'est un peu mon résumé du libéralisme économique. Oui, alors Adam Smith, on lui a fait dire beaucoup de choses qu'il n'avait pas forcément dit. La main invisible, c'est un peu plus compliqué qu'un marché qui s'autorégule de lui-même sans loi. Bref, ça part dans tous les sens. Hein, là, j'ai tapé dans un e-gap. Hein. Il y en a qui font des chansons dans le chat. Il y en a qui font de la philo. Il y en a qui font de l'économie. Bref. Mais intéressez-vous à l'économie avant que l'économie s'intéresse à vous. On va continuer, on va passer à un autre sujet, sinon on va passer toute la matinée là-dessus. Mais c'est toujours des débats intéressants. On va parler d'OpenAI et de Musk. Donc Sam Altman, le patron d'OpenAI. Alors, juste récapitulons les faits. Elon Musk était un des premiers... alors, c'était pas vraiment actionnaire puisque c'était plus un mode associatif OpenAI au début. C'était une fondation, je crois, si je me trompe pas. Donc une fondation, c'est un peu une assoc. Voilà. Pour pas vous compliquer les choses. Pas une entreprise, on va dire. Voilà. Et Elon Musk a fait partie des premiers à mettre de l'argent dans le moulin d'OpenAI à sa fondation. Et il a quitté, en fait, OpenAI, je n'ai plus les dates exactes, jusqu'en 2018. Voilà, jusqu'en 2018, il a co-dirigé l'organisme à but non lucratif. Il les a quittés. Il les a quittés, et ce qu'il dit maintenant, Elon Musk, qui attaque OpenAI, il dit « OpenAI, c'était à l'origine, en gros, c'était une assoce à but non lucratif, et maintenant, c'est devenu une entreprise entièrement commerciale. Ils font plus ça pour la passion, ils font ça pour l'argent. C'est ignoble. C'est ignoble. Ils ont trahi leur fonction première. OK ? Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il a soutenu financièrement jusqu'en 2020 et à présent devenu une filiale. Voilà. Et il accuse OpenAI d'être devenu une filiale de Microsoft et en gros, Open trahi. Voilà. Très, très, bonne, très bon jeu de mots, Lolo. Bien fine. effectivement, Open trahi. Lui, je ne sais plus ce qu'il dit sur Twitter, mais c'est Closed AI. OpenAI, ils les appellent Closed AI. Pour eux, ils n'ont plus rien d'open et c'est une sale société capitaliste. Elon Musk qui traite une autre entreprise de sale société capitaliste. Alors, il y a quand même plusieurs choses à détricoter. C'est un fait que OpenAI était à l'origine un organisme à but non lucratif. Mais ce qui s'est passé en interne chez OpenAI, et c'est... Alors, je vais peut-être lire l'article. On en parlera, je donnerai des explications après. OpenAI a répliqué à cette attaque. Sam Altman, donc, qui est le patron actuel d'OpenAI, et Greg Brockman, qui est le président d'OpenAI, ainsi que différents collaborateurs ont signé un post de blog dévoilant plusieurs extraits de correspondance avec Elon Musk allant de 2015 à 2018. On apprend notamment que l'ensemble des fondateurs donc d'OpenAI à l'époque où c'était à but non lucratif, l'ensemble des fondateurs avaient réalisé dès 2017 que l'entreprise aurait besoin de beaucoup plus de capitaux, des milliards et des milliards de dollars par an, pour développer cette fameuse intelligence artificielle générale, un peu le but d'OpenAI, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, pour développer OpenAI, il fallait lever des milliards et des milliards de dollars. Et que dans les mails, Elon Musk, malgré ce calcul, Elon Musk a dit que c'était possible de lever des milliards de dollars tout en restant une structure à but non lucratif. Fin 2017, Elon Musk a changé d'optique et considéré qu'OpenAI devait devenir une entité à but non lucratif. Donc, dans les mails, Elon Musk a acté le fait que OpenAI devait devenir à but lucratif pour avoir suffisamment d'argent pour se développer, afin de tenir le coup face à la concurrence de Google. Dans un mail, il insiste pour fusionner OpenAI avec Tesla, qui lui servirait de vache à lait. Donc dans un mail, il dit « On va fusionner OpenAI avec mon entreprise Tesla, les bagnoles électriques, et comme ça, le fric que je fais avec Tesla servira à OpenAI. » Face au refus des membres de l'équipe, il décide de quitter l'entreprise, affirmant que les probabilités de succès seraient alors de 0%. Il insiste pourtant pour que OpenAI trouve sa voie afin de lever des millions qui lui manquent pour entraîner ChatGPT. Parce qu'il fallait déjà des millions et des millions de dollars pour entraîner ChatGPT avant que ChatGPT sorte. Voilà. Ça, c'est la première partie du dossier. C'est que Elon Musk dit OpenAI a trahi... son côté organisme à but non lucratif, mais manifestement dans les mails, lui-même a dit « Oui, on ne peut pas continuer à être une assoce, en fait. On n'arrivera pas à développer l'AI si on a les moyens financiers d'une association. » Parce que ça, sans refaire un cours d'économie, c'est un fait. Une association aura toujours moins d'argent qu'une entreprise pour se développer. Parce que ce n'est pas le même fonctionnement économique. Là, je vous invite à aller voir les définitions de ce que c'est qu'une assoce et pas me sortir les exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles. Mais effectivement, face à un Google qui, lui, est une entreprise, ils sont arrivés, les fondateurs, très vite à la déduction qu'ils ne pouvaient pas continuer en étant une assoce au niveau financier s'ils voulaient rentrer en compétition contre Google. Voilà. Donc, premier truc où voilà, Elon Musk réécrit un petit peu l'histoire. Quand même. Il y avait combien de parts de l'entreprise ? Ben justement, ce n'était pas une entreprise au début. Donc, et je ne connais pas exactement comment fonctionnent les assos aux États-Unis ou les fondations. Je crois que c'était plus une fondation. Je ne crois pas que tu aies des parts, en fait. Ensuite, dans un autre mail publié sur le blog, les membres d'OpenAI s'attaquent à un autre argument d'Elon Musk, celui selon lequel l'IA développée n'est pas vraiment ouverte ni entraînée pour le bien de tous. Contrairement à Llama, qui est l'IA de Meta, ChatGPT n'est effectivement pas open source ni totalement gratuit. Un autre cofondateur d'OpenAI va jouer sur les mots dans un mail envoyé à Elon en 2016, indiquant que le mot « open » signifie que tout le monde devrait bénéficier des fruits de l'IA après sa construction, mais il est tout à fait acceptable de ne pas partager la science. Donc, de ne pas le rendre open source. Pour, voilà, l'explication sémantique de OpenAI n'est pas si open que ça, c'est de dire les bienfaits de l'IA sont ouverts sur le monde, mais nos formules magiques ne seront pas open source. Ouais, c'est de la sémantique, là. Mais oui, après, on peut parler de marketing. L'entreprise était déjà connue en tant qu'OpenAI, ça aurait été une erreur de changer de nom aussi. C'est pas si simple que ça. Est-ce que Free est gratuit ? Alors, je vous pose une autre question. Est-ce que Free est gratuit ? Ça revient à ça. Est-ce qu'OpenAI est open source ? Non. Est-ce que Free est gratuit ? Non plus. Ah, c'est du marketing. Mais bon, l'explication, on est d'accord que, ouais, bah OpenAI, c'est pas open source du tout, quoi. Voilà. Ça veut dire aussi libre, Free. Tu bosses chez Free, toi, Tels. Non, mais oui, je suis d'accord. Et open, ça veut dire ouvert. Ça veut pas dire forcément open source. Tu vois, moi aussi, hein, je peux faire de la sémantique. Est-ce que poulain, c'est du cheval? Donc, bon. On en est là, c'est pas très élégant. Elon Musk, je pense que l'élégance, c'est... Pour résumer ce que je pense aujourd'hui d'Elon Musk, c'est pas joli joli, mais c'est vraiment pas quelqu'un de classieux, quoi. Je sais pas, alors peut-être je fantasme un peu sur des gens qui ont un minimum d'honneur et de décence et de retenue et de diplomatie dans la vie. Moi, j'admire des gens comme ça. J'admire les gens qui ont de la retenue. J'admire des gens qui sont diplomates. J'ai aucune admiration pour les grandes gueules qui disent « Ouais, moi, je dis la vérité. Je dis pas les trucs de travers. » Putain, c'est... Bon, bref. Voilà. En fait, les gens qui disent exactement ce qu'ils pensent sans penser aux interlocuteurs, pour moi, c'est de l'égoïsme pur. Et pour moi, et c'est peut-être le reproche essentiel que je ferais à Elon Musk, c'est que c'est un gros égoïste. Voilà. Il ne pense qu'à lui. Il n'a aucune empathie. Alors, je sais, on va me sortir, oui, mais c'est parce qu'il est... T'as qu'à prendre des assistants si t'as des handicaps dans la vie. Voilà. Ou des conseillers. Non, non, je sais, on nous sort toujours et il est Asperger. Mais à ce moment-là, tu prends des assistants, tu lâches Twitter, tu laisses tes assistants s'occuper de Twitter. Tu balances pas tout ce qui te passe par la tête quand t'es quelqu'un de la taille d'Elon Musk. Voilà, c'est tout. Moi, pour résumer les choses, pour revenir sur le discours libéral et tout, j'aime beaucoup la concurrence. Je trouve que la concurrence, c'est quelque chose de très beau, mais la concurrence, ça doit être ça doit être fait dans un esprit sportif. Ça doit être fair play, ça doit être gentleman. On est en compétition avec les autres entreprises, tous les coups ne sont pas permis. Tout n'est pas à dire. Et je sais, hein, y a des sportifs qui trichent et l'esprit sportif n'est pas toujours dans le sport. Mais moi, j'aime voilà, quand les gens se comportent avec dignité, quoi. Et ouais, ils ne se comportent pas avec dignité. Voilà. Donc... C'est pas la mentalité anglo-saxonne du business, ça, malheureusement. Je suis pas d'accord avec cette analyse. Oui, il y a un côté guerrier parfois dans le. Mais pareil. Bon, je pars sur des terrains glissants. Non, je pense pas que tous les capitaines d'entreprise soient des psychopathes. Anglo-saxonne, et franchement, il y a des capitaines d'entreprise en France, dans le côté coup bas, qu'on dise qu'il n'y a que les Américains qui font des coups bas, non. Non. Mais pour le coup, OpenAI ne respecte pas la concurrence, ils ont pillé des articles. Alors ça, c'est un autre problème, Wendigo, tu es en train de tout mélanger. Mais c'est un problème, je suis d'accord. D'ailleurs, ils se prennent des procès, hein, là, OpenAI. Hein. Et c'est une news que je ne vous ai pas faite, mais ils sont en train de racheter des grands groupes de presse dont ils se sont servis pour entraîner leur IA. Mais là, ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème de comment ils ont construit leur chat GPT. Et est-ce qu'ils respectent le copyright ? Mais vous voyez, on en revient au débat de la... Quand la cupidité l'emporte sur la dignité, c'est pas des capitaines d'entreprise que j'admire. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui peut me dire « Ouais, mais les grandes entreprises, c'est quand même toujours des mecs qui ont un peu des méthodes... Faut être borderline. » Ouais, mais c'est ça aussi, être quelqu'un de digne. C'est de poser des limites à ce qu'on doit faire ou pas faire dans le cadre d'une compétition. Et peut-être qu'aucun capitaine d'entreprise n'est vraiment fair play et que j'ai une vision fantasmée, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, j'essaye d'être comme ça, c'est tout. Tu vois, on en revient aussi au débat. Est-ce que pour être Steve Jobs, il faut être aussi exécrable que Steve Jobs ? Ben, s'il faut être aussi exécrable que Steve Jobs, je préfère pas être Steve Jobs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas m'empêcher de ne pas avoir d'admiration pour des gens qui ont eu des méthodes trop brutales ou ce genre de choses, quoi. Alors, peut-être qu'on ne peut pas être milliardaire sans être un salaud. Bah, on se contentera d'être millionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est peut-être ça aussi, poser des limites à sa cupidité. Je sais que c'est quasiment impossible de se dire, ça y est, je gagne assez d'argent, je m'arrête là. Mais justement, comme quand le fait de gagner encore plus d'argent t'oblige à faire de plus en plus d'entorses à ta morale, c'est là où je dirais que ta morale est à l'épreuve. Ben oui, mais c'est complexe, hein, une entreprise. Une entreprise, tu te dois de gagner de plus en plus d'argent. C'est la dynamique d'une entreprise. Une entreprise peut pas stagner, en fait. Ouais, on a fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière, c'est bon, les gars. Non, 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 non. Une entreprise doit croître. Parce qu'une entreprise doit effectivement continuer à innover, continuer à embaucher, continuer à progresser. Donc ouais, ça peut être antinomique. Et d'ailleurs, si vous vous sentez pas, il vaut mieux faire des assos dans ce moment-là, à ce moment-là. Oui, non, mais je suis d'accord. À titre personnel, tu peux te dire, OK, je gagne assez d'argent et je refuse des postes qui m'intéressent moins parce que, mais il y a quand même une notion de valeur. Là, je parle plutôt, quand tu diriges une entreprise, c'est suicidé. Enfin, une entreprise, tu peux pas te dire, ouais, c'est bon, là, stop, on a fait assez de chiffres d'affaires, stop, 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 arrêtez de vendre, arrêtez, arrêtez. Oh non, ça fait trop d'argent! Non, c'est antinomique avec une entreprise. Par contre, une entreprise peut dire, ouais, là, on pourrait faire beaucoup plus d'argent, mais c'est sale. On va pas le faire. Ah, ça, une entreprise peut le faire. Mais voyez, alors le truc, vous allez toujours me sortir des exceptions. Patagonia, c'est une entreprise vraiment pas comme les autres. Mais oui, j'ai lu sur Patagonia, c'est intéressant. Tout le monde va me sortir l'entreprise qui est dirigée par ses salariés, c'est des exceptions. Et il y en a, et tant mieux, il faut expérimenter des choses. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont pareilles, mais là, vous me sortez des micro-exceptions. En fait, on en parlait l'autre jour. Moi, je le sais, avec une toute petite entreprise, t'as jamais assez de trésorerie, rien que ça. C'est très dur de refuser un budget, même quand t'as eu une année florissante, parce que tu te dis, c'est toujours de la trésorerie de gagner, ça me rend plus fort pour l'avenir. Et les coups durs, toute entreprise en connaît. Donc, dans l'absolu, t'as jamais trop de trésorerie parce que tu peux pas anticiper les coups de grisou, les coups durs. On est en train, putain, ce matin, on est vraiment dans l'économie générale, hein. Mais bon, ça a l'air de vous intéresser. Tout ça pour dire, il y a de la mauvaise foi des deux côtés dans cette histoire OpenAI versus Musk. Il y en a plus du côté Musk. Voilà. Mais OpenAI, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est clair. C'est absolument clair. Cours d'économie de 9 h. Non, mais moi, personnellement, c'est ce que j'aime avec vous dans le mug. Je sais qu'en rigolant, on appelle ça le gravier, mais j'aime qu'on puisse extrapoler autour d'une guéguerre entre OpenAI et Musk et parler voilà des gentlemen entrepreneurs et eux n'ont pas l'air d'être vraiment des gentlemen entrepreneurs. J'aime bien qu'on ait ce type de débat. Je sais que certains, ça les saoule parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on a toujours ce type de débat et ils voudraient que des news factuelles dans le mug. Vous n'êtes pas sur la bonne émission, c'est clair. Comment tu vois le marché de l'IA à l'avenir? On aura des forfaits sur diverses plateformes. C'est une question très intéressante, PAO Sébastien. On va voir, parce qu'une des évolutions majeures de l'IA aussi, c'est les modèles de langage léger, qui pourront être traités en local, donc qui n'engendreront pas les surcoûts que demande aujourd'hui l'intérêt. Aujourd'hui, si par exemple ChatGPT est payant, c'est juste pour amortir les frais de fonctionnement. Je pense pas qu'il se fasse du bénéf ou très peu de bénéf avec le forfait que vous payez. Par contre, ils amortissent leurs frais de fonctionnement pour que ChatGPT fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on arrive à trouver les solutions technologiques pour qu'une partie de la charge de calcul que demande une IA générative se passe en local sur ton ordinateur, sur ton smartphone, le coût de fonctionnement de l'IA génératif sera déjà bien moindre. L'IA, alors déjà, Sir Newt, dis pas IA, parce que l'IA, c'est un grand mot valise qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, IA. Là, on parle d'IA générative. C'est un sujet à part. C'est même pas un sous-groupe de l'IA, parce que l'IA, c'est une notion extrêmement vague. La question écologique et la question économique des IA, c'est la même chose, hein, des IA génératives. En fait, les gentils sont ceux qui auraient viré Altman. Là aussi, on ne peut pas être aussi manichéen que ça. Hein. J'avais fait un format court là-dessus, hein, entre les doomers et les boomers. Les boomers, rien à voir avec la génération des boomers. Mais autour de l'intelligence artificielle, il y a deux grandes tendances. Les doomers qui pensent que l'IA, ça va trop vite et que c'est très dangereux. Et les boomers qui pensent au contraire que la solution au problème de l'IA est dans l'IA elle-même et qu'il faut accélérer. Après, il y a plein de nuances entre ces deux coups de pensée. Un économiste a dit qu'Apple n'était pas trop cher, mais qu'Apple n'a jamais été bon marché. Voilà la différence. Oui, c'est de la sémantique tout ça. Faudrait créer une banque avec le token comme monnaie dépensable sur tous les services d'IA hors abonnement spécifique. Oula, compliqué. En fait, sur l'IA générative, je suis en train de réécrire la vidéo que j'ai écrite hier. L'IA générative, parce que je vous réexplique ce que c'est que l'IA générative. C'est une IA qui génère. Elle va générer du texte, des images, des réponses, des suites d'actions. Et elle génère ça en se basant, grâce à des grands calculs de probabilité, sur des bases de données absolument gigantesques, sur lesquelles elle est entraînée à donner les réponses les plus pertinentes possibles, à générer les choses les plus pertinentes possibles en réponse à une demande. Ok, tu suis jusque-là? C'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. C'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux ou les grands modèles de langage, les LLM. Ok? Jusque-là, tu suis. Pour comprendre en langage plus français et pour peut-être vous enlever une espèce de peur des IA génératifs parce que vous les utilisez pas. Ce que je dis dans la vidéo est quelque chose de très important pour moi. Et j'aimerais vous le faire passer. Pourquoi il ne faut pas avoir peur des IA génératives? Les IA génératives ne sont pas un esprit créatif. Les IA génératives sont un esprit de synthèse. C'est-à-dire qu'elles ne génèrent rien qu'elles ont créé. Elles vont synthétiser par rapport à une demande donnée l'ensemble d'une base de données pour donner une réponse. Donc, c'est de l'esprit de synthèse. C'est très bien, l'esprit de synthèse. Et l'esprit de synthèse peut mener à la créativité humaine. Mais ce n'est pas un esprit créatif, l'esprit de synthèse. C'est deux choses différentes. Ouais, il me reste trois articles et on part dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut comprendre sur les IA aujourd'hui, parce que c'est facile d'avoir peur en partant dans des schémas à la Terminator... Elles n'ont absolument pas conscience de ce qu'elles font. Elles ne prennent absolument pas de décision par elles-mêmes. Et elles sont incapables de créer des choses. Elles synthétisent bien mieux que nous l'ensemble de nos connaissances. Voilà. On est ultra loin de Skynet. Mais on aime bien se faire peur. Voilà. On aime bien se faire peur, on a des fantasmes. Surtout, c'est ce que je dis souvent sur l'IA. En fait, l'IA n'est qu'une projection de nous-mêmes. Et d'avoir peur qu'un ordinateur nous remplace, vous savez, c'est très à la mode, hein, les histoires de remplacement en ce moment. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais si vous avez peur que les ordinateurs vous remplacent, c'est simplement un écho à vos angoisses existentielles. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on existe? C'est juste ça, hein. Terminator, c'est juste un écho de pourquoi on existe. Est-ce qu'on sert à quelque chose? Et c'est normal, les angoisses existentielles, on les a depuis un petit bout de temps. On va arrêter là parce que je sens que je vais partir encore très très loin. Allez, on a encore 3 articles et 9h09, et puis surtout, on a. C'était même pas le débat qu'on devait avoir aujourd'hui. On va parler effectivement d'iOS 17.4 qui est disponible. Alors, je vais vous parler des nouveautés. Alors, le gros des nouveautés concerne uniquement l'Europe. Et c'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'il y a un fork, il y a une fourche. Aïe, 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 anglicisme. Oui, bah en programmation, on dit un fork. Alors, zut. C'est-à-dire que iOS maintenant, il y aura un iOS européen et un iOS pour le reste du monde et un iOS pour la Chine. Je crois qu'il y a une différence hein, avec la Chine. La Chine, ils ont un iOS particulier aussi. Hein. Me demande pour la Russie s'il n'y a pas eu un truc aussi, un fork. Bon, en gros, on n'aura pas tous le même iOS. C'est l'intersection qui s'est créée parce qu'effectivement, les changements dont je vais parler ne concernent que l'Europe. Les États-Unis ne les ont pas. Donc, dans l'Europe, on aura, et on en a parlé tout à l'heure, maintenant la possibilité d'installer des App Store alternatifs. Et... Et par exemple, moi j'ai appris là récemment, je ne sais pas si vous connaissez Setapp, mais Setapp c'est un ensemble d'applications, ils ont Clean My Mac, dans l'abonnement Setapp il y a MindNode et tout, ils vont ouvrir d'ailleurs leur propre store, ils ont annoncé. Donc on a une vision des stores alternatifs comme des trucs de malfrats avec des malwares dégueulasses. Il y aura peut-être pas que ça. Ça peut être intéressant, effectivement. Cette app, c'est une boîte ukrainienne, si je ne me trompe pas. Cette app. Et ils ont des très très bons, une très bonne suite logicielle, quoi. Salut Chanchon. Donc, d'avoir des app stores alternatifs. Attention de ne pas tomber non plus dans la caricature que les App Store alternatifs seront des trucs chelous avec des malwares faits par des Chinois, parce que là, vous êtes un peu dans de la caricature boomer, une vision de l'informatique. Il peut y avoir peut-être des stores alternatifs et ça peut faire fleurir une concurrence. Donc moi, je pense que l'Europe a eu raison d'imposer à Apple d'ouvrir le marché. On verra. Parallèlement, effectivement, Apple a soumis des nouvelles conditions aux développeurs. Donc, elle permet aux développeurs d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs sans verser les 30% à Apple, mais... parce que chez Apple, il y a toujours un « mais ». Apple a trouvé la faille du système européen et maintenant oblige les développeurs à verser 50 centimes par téléchargement à Apple. Ah ! Alors ok, on va plus prendre les 30%, mais par contre, très Apple. Hein. Quand je vous disais qu'ils ont le seum quand même Apple et que ce côté passif-agressif d'Apple, là on le sent bien. Alors on pourrait dire malin... De toute façon, l'Europe n'a pas encore réagi hein, à cette manœuvre d'Apple, n'a pas encore réagi officiellement. C'est pas sûr que Apple arrive à... Apple a dit « Ok, c'est comme ça, bah nous, ça va être comme ça. » Maintenant, l'Europe va répondre. Et il y a quand même un truc qu'il faut que vous compreniez tous. Apple, ils peuvent faire les gros bras. Microsoft, ils peuvent faire les gros bras. Google peut faire les gros bras. Le marché européen est trop important pour qu'ils ne se soumettent pas. Sauf si, effectivement, la Commission européenne se met à pondre un truc où ils ne vont plus gagner d'argent du tout. Là, peut-être que ces entreprises américaines vont dire « bah, on n'a aucun intérêt à le faire. Là, on ne gagne plus d'argent. » Ou encore pire, on va juste en perdre. Là, ils arrêteront peut-être certains services. Mais dans l'absolu, l'Europe est une puissance économique énorme. On est un nain au niveau technologique. Je suis d'accord, on n'a pas de Google européen, machin. Mais notre marché intérieur est trop important. Et là, je donne mon opinion personnelle, on en reparlera tout à l'heure. Même si parfois c'est impopulaire, c'est à l'Europe de fixer les règles des contrats avec les États-Unis. On n'a pas à accepter d'être sous les lois commerciales américaines. C'est ma conviction, en tout cas. Mais on en parlera. Justement, on en parlera à la fin. OK, donc là, pour les développeurs, on va dire que c'est pas ce qu'a fait Apple. C'est un peu une entourloupe, quand même. Apple Pay aussi. Marie en a parlé, donc je vais aller assez vite là-dessus. Mais en gros, l'Europe a obligé Apple à ouvrir sa puce NFC à la concurrence. Donc, jusqu'ici, la puce NFC ne pouvait servir que à Apple Pay. Et ben là, d'autres systèmes à la Apple Pay, vous pourrez les installer sur votre iPhone et ils fonctionneront comme Apple Pay. Donc, ouverture à la concurrence. Donc, est-ce que certaines banques vont quitter Apple Pay? En fait, les gens gueulent, et moi le premier, hein, si mes banques m'enlèvent Apple Pay, ça va pas aller du tout. Maintenant, si un système concurrent qui marche comme Apple Pay et que ça ne me pose pas de problème, bah oui, vive la concurrence. Voilà. Je ne suis pas soumis, je m'en fous que ça soit une pomme quand je paye. Hein. Tant que c'est aussi pratique de payer que Apple Pay. Voilà. C'est tout. Mais tout de suite, les réactions des gens, c'était de marrant, parce que j'écoutais aussi Marion quand elle le faisait, c'est « Ouais, mais comme si ça va être un truc européen, ça va être tout naze. » On a quand même ce truc que forcément un truc européen, c'est tout naze. Et c'est pas faux, des trucs comme Paylib, enfin, en tout cas, à l'époque, voilà, on a un don aussi pour prendre des solutions qui sont pas les meilleures du monde. Mais a priori, ce ne serait pas Paylib. Marion a parlé d'un autre système qui serait concurrent d'Apple Pay en Europe. À voir, laissons-leur la chance. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise « Ah, oh, comme c'est des Européens, ça va être pourri. » On fait quand même pas que des trucs pourris en Europe, si ? Faut qu'on arrête de penser comme ça. Parce que c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Ça arrange bien, par exemple, les États-Unis, la Chine et les autres, qu'on pense ça de nous-mêmes. Qu'on se voit comme un vieux continent. Incapable d'innover et de faire des trucs bien. Et je vous garantis que ce n'est pas vrai dans tous les domaines. Bref. Ben si, justement, ça aura la fluidité d'Apple Pay parce que le NFC sera ouvert. Mais effectivement, Apple trouvera peut-être des moyens de rendre ça moins bien qu'Apple Pay. Mais il va falloir qu'il se fasse ça dans les réglementations de la concurrence. Oui, oui, Paylib, c'est pas du NFC, c'est un autre système. C'est Wero, merci. Wero, le nouveau Paylib. Ouais, ben voilà, c'est déjà, on fait des articles là-dessus. Wero, ça serait la solution européenne de paiement par NFC. Ouais. Parce que vous, vous dites, toi, Apple Pay, c'est trop bien, mais Apple Pay, d'après ce que disait Marion, ils se servent large, hein, quand même, sur le dos des commerces, sur le dos des banques. Alors, j'arriverai jamais à défendre les banques. Vous le savez, je déteste les banques. Et elles me détestent. C'est réciproque. J'arriverai pas à défendre des banques, mais les commerçants, oui. Mais arrêtez de bloquer sur Paylib. On ne parle pas de Paylib. Non, mais moi aussi, j'ai détesté mon expérience Paylib. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme différence ? On pourra choisir son navigateur. Alors là, ça montre quand même le somme d'Apple. Ok, bah allez-y. Vas-y, fais ton malin, choisis ton navigateur. Voilà comment Apple a présenté le choix de votre navigateur par défaut. Alors, ils l'ont fait, mais on sent qu'ils étaient obligés de le faire. Hein. Il n'y a aucun descriptif, il n'y a rien. L'expérience utilisateur, elle est dégueulasse. Bon, est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ? Après, on pourrait dire au moins, ils ont mélangé les petits et les gros hein, au niveau des navigateurs. Ah là, vous avez le choix, hein. Moi, il y a des navigateurs que je connaissais même pas. Hein. Par contre, il n'y a pas Arc. Et Arc, c'est mon navigateur préféré en ce moment. C'est ma révélation même. Si vous n'avez pas testé encore Arc, c'est génial. Alors, je sais que Arc sur mobile, c'est pas ouf. Mais par contre, si vous n'avez pas encore essayé Arc, ARC, essayez-le. Meilleur navigateur du monde. Ouais, Arc sur mobile, c'est pas top. C'est clair, mais ils auraient pu le proposer. Non, mais Arc, c'est génial. Je pensais pas m'enthousiasmer pour un navigateur. Je vous le dis, hein. Et je suis pas à payer pour ça. C'est pas un placement, rien du tout. Arc, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bah, allez essayer, vous allez voir. Ouais, mais je suis d'accord que Arc sur mobile, pour l'instant, c'est pas... Mais Arc sur macOS, moi, je l'ai sur mon Mac, là. Ça y est, ça a remplacé mon navigateur par défaut, hein, clair. Ça serait trop long de vous expliquer ce qu'il a de plus que les autres, mais... il a une manière d'organiser les onglets, les trucs. Enfin, il écrase tous les autres en termes d'expérience utilisateur. Mais je précise sur Mac. Hein. Je sais, il y est sur Windows Arc. Je sais pas. Hein. Ouais. Cherchez Arc browser. Il est basé sur Chromium. Hein. En fait, c'est un peu une. Ils sont plus concentrés sur l'expérience utilisateur. C'est pas un navigateur révolutionnaire. Voilà, ça tourne sous Chromium. Ça vient d'arriver en bêta Windows, d'accord. Il y a une waiting list pour Windows, d'accord. Je me demande si je vais pas faire une vidéo un jour sur Arc. Parce que alors, s'il y a vraiment un endroit où je n'attendais pas une innovation, c'était sur les navigateurs et pourtant. Et pourtant. Mais pourquoi ils confondent browser ? Non, là, c'est vraiment des navigateurs hein, qui proposent. Hein. Ce n'est pas des moteurs de recherche. Hein. Ça, c'est autre chose. Si vous prenez Safari, par défaut, vous avez Google comme moteur de recherche. Hein. On reparlera de Arc, là, je suis complètement sorti de mon arc narratif. Mais testez-le, vous verrez bien. Allez vous renseigner effectivement sur leur business model. Ils ont des formules payantes, des formules gratos. Et ils sont assez transparents sur leur business model. Bah, en vrai, Pathman, tu vas peut-être rire, mais Safari était mon navigateur préféré. Et avant Arc... Je n'utilise quasiment plus que Safari, j'utilise plus du tout Chrome. Moi, j'aime beaucoup Safari, en fait. Je suis peut-être le seul, mais j'utilise énormément Safari. De toute façon, je suis un peu devenu... j'utilise les trucs de base de mon iPhone. J'utilise Notes, j'utilise Number, j'utilise Keynote. J'utilise, voilà, les apps de bureautique d'Apple, je les utilise maintenant. Après, on a des habitudes, c'est normal, hein. Mais moi, Safari, j'aime beaucoup. Mais Arc, je l'ai trouvé meilleur que Safari. Ouais. Ecosia est un moteur de recherche. Ils n'ont pas un navigateur, Ecosia, quand même. DuckDuckGo, il y a un browser hein, avec un, y a un navigateur. Hein. C'est un moteur de recherche, oui. Oui, c'est une app mobile, en fait, Ecosia, donc pour leur moteur de recherche. Mais effectivement, alors je comprends ce que tu veux dire. Il y a un mélange entre des navigateurs purs et des navigateurs ou des apps qui vont embarquer un moteur de recherche. Quant, DuckDuckGo, Ecosia vont avoir leur moteur de recherche. Mais Chrome aussi, hein. C'est juste, c'est Google. Alors, non, justement, le WebKit, bonne réflexion. En Europe, tu ne seras plus obligé d'utiliser le Apple WebKit. Alors que dans le reste du monde, ces navigateurs sont obligés d'utiliser le Apple WebKit. Tu as le droit d'utiliser des moteurs web différents en Europe. Apple a dû lâcher la bride là-dessus. Dans les autres changements, on n'aura plus besoin de dire S-I-R-I. Enfin, on pourra dire S-I-R-I à la place de dit S-I-R-I. J'essaye de ne pas le déclencher chez vous. Mouais. J'aimerais surtout que elle puisse éteindre la lumière et pas... Vraiment, S-I-R-I est en totale régression. Elle n'arrive même plus à allumer la lumière chez moi. Hein. Enfin, si elle y arrive, mais une fois sur cinq, elle se plante. Donc, est-ce un progrès de ne plus devoir dire « dit S-I-R-I » Ça ne va pas me changer la vie, personnellement. Ah oui, deux minutes heure simultanée, S-I-R-I, elle fait un AVC, ouais. C'est un peu ça. Je crois que c'est activé par défaut à voir dans les réglages, cette histoire de S-I-R-I. Il y a des nouveaux emojis. Ok. Alors, oui, on a deux mouvements de tête, un phénix, un citron vert, un champignon et une chaîne qui se brise. Peut-être plus intéressant, c'est qu'ils ont changé les emojis famille par des pictogrammes en conformité avec les demandes du consortium. Il s'agit d'une mesure provisoire en attendant de pouvoir générer des familles plus représentatives de la réalité. On est sur les biais culturels, hein, les représentations des familles un peu WASP qu'il y avait dans les émoticônes. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une représentation neutre, complètement neutre, pas non plus trop woke non plus. Neutre, voilà, factuel. Famille, groupement d'individus. Voilà. Bah non, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est neutre, là, justement. Ceux qui sont très effarouchés par le fameux wokisme. Non, je trouve ça assez neutre comme approche. Et désolé les anti-wok, désolé, Mais les familles aujourd'hui, c'est complexe. Et ça, c'est la réalité. On n'est plus sur le modèle catho-occidental blanc de la représentation idéale de la famille. Et ça, c'est la réalité, c'est les faits, en fait. Donc, comment on fait pour représenter tout le monde? Voilà. Hein, donc, vous pouvez appeler ça du wokisme. Moi, j'appelle ça du réalisme. Et voir les choses, le monde tel qu'il est. Et pas sur un fantasme d'un temps ancien qui n'a jamais existé, d'ailleurs. Pardon, judéo-catho. J'ai oublié de dire judéo-catho. Il me reste deux articles. Aïe, aïe, aïe. On est mal, hein, Samuel. Ah, mais ce que j'essaie juste de dire, voilà, c'est une représentation hyper neutre, comme un panneau de signalisation, et c'est très bien. Venez pas me... Qu'est-ce que vous allez dire demain? C'est que les panneaux de signalisation routiers, ils sont wokistes? Faut arrêter quand même, hein. Faut arrêter. Hein, gardez de l'énergie de votre haine, recyclez-la vers des choses positives et ouvertes et constructives. Bon, ce qui serait constructif aussi, Jérôme, c'est que... mais je pense que ouais, le DMA, on aura le débat demain. Hein. Je vais être factuel parce que là, effectivement, il est 9h26. Je voulais parler quand même factuellement dans les conséquences du DMA. Certains sont bien vénères. Parce que ils ne trouvent plus Google Maps dans les résultats de recherche Google. Si vous avez essayé récemment, depuis hier, de localiser une adresse sur Google, vous avez peut-être été un petit peu surpris. Le volet habituel Maps ne s'affiche plus, on ne peut plus cliquer. Vous n'avez qu'un affichage, en fait, de l'endroit, mais plus possible de naviguer sur la carte. En fait, ce n'est pas une défaillance de Google, c'est ni la suppression définitive de la fonction Maps, mais c'est un changement qui a été imposé par le DMA. Mais vous pouvez ramener les choses comme avant. Mais par contre, alors je vous explique. Vous allez sur la page « Service Google associé » et vous sélectionnez Google Maps pour restaurer la fonctionnalité dans les résultats de recherche. Mais si vous validez que vous voulez utiliser Google Maps dans les résultats de recherche, cela implique l'acceptation du partage de vos données à Google. En fait, ce que cherche à faire l'Europe et le DMA, c'est pas de vous emmerder. C'est que vous réalisiez, alors après si vous faites en trois clics sans regarder, mais au moins que vous réalisiez que ce service super pratique de Google Maps, c'est un contrat que vous passez avec Google et que vous acceptez le partage de vos données à des fins de profilage publicitaire en échange d'un service qui n'est pas gratuit du coup, puisqu'il y a une transaction en fait. Et c'est ça qui est hyper important dans ce que fait l'Europe, peut-être maladroitement. Je sais que vous en avez marre des fenêtres où il faut cliquer oui, oui, oui. Mais que vous le vouliez ou non, ça vous fait prendre conscience, même inconsciemment, que vous êtes en train de signer des contrats et que l'Internet gratuit n'existe pas. Et rien que pour ça, c'est hyper important ce que fait l'Europe. Et moi, je suis pour. Et je sais, moi aussi, il y a des moments, ça me fait râler. Oh! Mais je sais aussi que je suis paresseux comme tout le monde. Je vais toujours aller vers le confort et je préfère m'endormir dans le lit confortable et moelleux de l'entourloupe que de me compliquer la vie avec la réalité et la lucidité. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ces sociétés américaines nous ont fait croire, elles nous ont endormis. Elles nous ont fait croire qu'elles faisaient ça de bonté de cœur. Google proposait la meilleure carte du monde pour vous diriger rien que pour vous, parce que vous étiez beau et magnifique, et que vous le méritiez, et qu'il faisait ça par passion. Et on est tous tombés dans le panneau. Et on l'a tous fait, et on a tous cru que ces réseaux sociaux incroyables étaient là gratuitement, mais oh, c'est trop bien des trucs qu'on payait avant. C'est une entourloupe. Et l'Europe est juste en train de vous le faire réaliser en ce moment avec ces trucs chiants, en fait. Donc en fait, aujourd'hui, les gens qui disent « Ah, l'Europe, ils font chier. Avant, c'était quand même plus facile, c'était plus fluide. » je comprends l'agacement, c'était mieux avant. Mais c'était mieux avant. Disons que soyez... c'est là où il faut être cohérent. On ne peut pas d'un côté gueuler contre les GAFAM et de dire « Il y en a marre qui pillent nos données et qui s'enrichissent sur nos dos. » Et derrière, dès que l'Europe, effectivement, essaye de rendre le contrat plus clair, « Ah, l'Europe, elle fait chier, là. C'était mieux avant. Au moins, je n'avais pas à cliquer sur 36 000 fenêtres. » Voilà. Donc, soyez cohérents. Là, vous pouvez tout à fait rétablir le service comme avant. Ça vous demande juste de signer un contrat que vous acceptez de transmettre vos données à Google qui va les exploiter à des fins de profilage publicitaire. Le contrat est signé, vous n'avez plus le droit de gueuler. Mais au moins, le contrat, il est entre deux parties conscientes. Bah, tu vois, Manu, tu penses que ça n'a pas d'impact sur ta vie. Le simple fait que c'est une friction, c'est fenêtre pop-up pour les cookies, c'est énervant. Mais je pense que c'est un peu le but. C'est agaçant, c'est irritant, on préférait que tout soit fluide. Mais c'est comme ça qu'il y a eu une arnaque sur l'Internet gratuit. Ouais, c'est une friction, mais inconsciemment, tu réalises que tu signes des trucs à chaque fois que tu cliques sur ces trucs-là. Tu donnes ton consentement. Donc, ouais, ça a rendu l'Internet moins fluide, mais c'est peut-être un peu moins... on est peut-être un peu moins endormi aussi. Et en fait, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'on peut, tu peux pas gueuler des deux côtés. Tu peux pas dire, il y en a marre de ces GAFAM qui payent pas leurs impôts, qui font de l'argent sur notre dos et qui nous pillent nos données. Et d'un autre côté, dire, oh, il y en a marre de devoir cliquer sur des fenêtres qui nous demandent si oui ou non on est d'accord pour filer nos données à travers des cookies. Tu vois? Mais je le sais, on a fait une vidéo sur la souveraineté européenne sur Internet. C'est une des pires vidéos en termes de vues qu'on a fait. En vrai, les gens s'en foutent. Je le sais, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas avoir le combat. Hein. Mais très peu de gens ont regardé cette vidéo sur les problèmes de souveraineté sur Internet entre l'Europe. La plupart des gens s'en foutent. Je le sais, hein. Je le sais. Mais c'est comme la vie privée. En vrai, la plupart des gens s'en foutent. Tant qu'ils ont leur confort, c'est le plus important. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas de mener les combats. Mais vous savez, c'est le même truc. On déteste la pub, mais on n'a pas envie de payer non plus. Ah, c'est exactement le même genre de truc. Hein. Ah, mais pas de problème. Si ça ne te dérange pas qu'on utilise tes données à des fins publicitaires... Bah, mais au moins, tu as signé le contrat. Donc, voilà. Ce que veut pas l'Europe, c'est que les Européens ne comprennent pas qu'ils sont en train de transmettre des données économiques du marché européen, de leurs usages, à des boîtes américaines qui se font énormément d'argent avec les données comportementales des Européens. Mais si c'est quelque chose que tu acceptes, et moi aussi, hein, dans plein de situations, je l'accepte. Mais je préfère signer quand même. Et je suis content que ça soit l'Europe qui impose les conditions du contrat et non pas les États-Unis. Parce que je suis citoyen européen et pas un citoyen des États-Unis. Hein ? Non, ça aussi, c'est une vision caricaturale de dire on bride les plus gros et meilleurs que nous. Non, 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 non. On est un énorme marché pour eux. On n'est pas des tout petits, on n'est pas une Europe naine. Ok, on n'a pas fait Google, on n'a pas des gros services numériques, ça je suis d'accord. À part Spotify, pas Spotify, si Spotify, truc de musique là. On n'a pas fait de géant Internet américain. Mais on est un géant au niveau des utilisateurs. On est un marché important pour eux, vital. Non, je voulais parler de Spotify. Deezer n'est pas vraiment un géant, hein, désolé pour eux. Mais Spotify, c'est gros quand même. Bon, mais à part eux, en Europe, sur les services grand public Internet, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, on est un marché énorme. Donc arrêtez de dire on leur met des bâtons dans les roues parce que nous, on n'a pas réussi à faire des entreprises. Je veux dire, on est un énorme marché de consommateurs de leurs services. C'est à nous d'imposer les lois aussi. C'est pas open bar, hein, l'Europe. Et justement, même en suivant le raisonnement, la manière de procéder américaine tue la concurrence et empêche l'émergence d'une concurrence européenne. Donc, non, c'est pas comme ça que marche le monde et il faut qu'on arrête de se regarder comme ça, je pense. Enfin, vraiment. On est un géant commercial. Ne serait-ce que la taille de notre marché, le marché européen, ils ne peuvent pas s'en passer. Mais on n'est pas des citoyens américains. On a des règles de commerce européennes et il faut qu'on les fasse respecter. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer, mais finalement, on est parti un peu dans le débat qu'on continuera demain. Hein. Je pense que le gros article de demain, on expliquera justement le DMA, comment il va impacter Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft. Je me garde l'article pour demain, je pense. Vous savez, il y a quand même un moment, il faut regarder les choses en face. Et je suis absolument pas anti-américaniste du tout. J'ai passé mon enfance aux États-Unis, donc mon cœur est américain. Mon cœur d'enfant, en tout cas, et c'est le pays de mon enfance. Mais les pratiques commerciales des États-Unis, regardez comment les États-Unis sont pour le libre marché jusqu'à ce que ça ne les arrange pas. Regardez les histoires Airbus-Boeing. Ben, c'est la même chose qu'ils font avec Internet. S'ils peuvent écraser la concurrence des autres pays, ils le feront. Et dans quelle mesure ils empêchent l'émergence de concurrence européenne sur certains secteurs parce que ça a été les premiers ? Là aussi, c'est important que l'Europe se défende économiquement. On est différent. L'histoire Airbus-Boeing, il y a eu Boeing a tout fait pour torpiller Airbus. Et a eu des pratiques sur les marchés de l'aéronautique qui n'étaient vraiment pas libérales, pour le coup. Non, je n'ai pas trop parlé de la grosse panne au VH, parce que c'était il y a 2 jours. Facebook, Messenger et Insta et tout le groupe Meta qui était down. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je sais pas s'il y a eu des rebondissements. On en parlera demain, Michael. Demain, c'est journée plus relaxe pour les questions et tout ça. Bref, c'est la fin de ce mug. Il est 9h40. Mais c'est intéressant. On est un peu parti. Dérapage pas trop contrôlé. On a fait de la philo. On a fait de l'économie. On a fait waouh. On est parti dans tous les sens. Mais c'était cool. Enfin, moi, ça m'intéresse. Après, je comprends que. On a peut-être certains, ça saoule, mais moi, ça m'intéresse de faire le mug et de parler de ce genre de choses, d'extrapoler un petit peu. Grosse session drift, mais c'est le drift qui est bon. L'important n'est pas le virage, c'est la trajectoire globale. Ouais, j'ai à peu près résumé mes compétences dans le moindre jeu de course. Pour moi, un virage est une suggestion. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, c'est la fin. C'est la fin, on se retrouve demain. Je pense que demain, je vais voir s'il y aura des sujets, effectivement, sur la journée mondiale du droit de la moitié de l'humanité. On devrait finalement rebaptiser le 8 mars comme ça. Journée internationale du droit de la moitié de l'humanité. Franchement, je trouve que ça ne serait pas une mauvaise idée. On verra. Généralement, il y a des articles là-dessus. On parlera, on reviendra peut-être effectivement sur le DMA. C'est plus long pour rentrer sur les calendriers. Mais qui rentre encore des trucs sur des calendriers? Enfin, tu veux dire genre calendrier papier? Il n'y a plus ça. Non, je ne vais pas faire un gâteau et des bougies, ne serait-ce que par respect pour la journée internationale des droits de la moitié de l'humanité, qui sont atrocement bafoués à travers le monde. Et puis, on va dire que mon anniversaire, c'est aussi un peu ma vie privée, mais bien sûr... On pourra en parler un petit peu demain, mais je... D'abord, je n'ai pas le temps d'acheter un gâteau. J'ai trop de travail. Allez, je coupe. Je vous fais... C'est aussi ton anniversaire. Je vous dis à demain matin. On va faire un petit raid, bien évidemment. Nous allons faire un petit raid de chiqui. Merde, ça a planté. Le raid. Lancer un raid. Pourquoi ça a planté? Ah, voilà. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est là? Tiens, ma Kofi. Kofi, ça fait longtemps. Allez, un petit raid chez Kofi. Menu Chocobo. Ah, non, il vient de couper ou quoi? Non, c'est bon. Allez, petit raid chez Kofi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Et mon générique de fin, j'allais l'oublier.